Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, messieurs, Dominique Glusman, Kevin Diaz et Maxime Chalot sont là avant d'aller en Angleterre. Jean-Luc Roy nous appelle au Grand Prix du Canada.
Et oui, juste un mot pour dire que Lando Norris, qui était donc remonté dans les points, vient d'abandonner sur un problème mécanique. Il a été garé sa monoplace dans de, au fond du circuit. Terminé.
Bon, tant pis pour lui. À tout à l'heure. Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut
Julien. Tous.
Dernière
salut
journée Julien. Du championnat anglais avant de rentrer dans le détail. Petit message pour vous rappeler que lundi de la semaine prochaine, le 1er juin, ce sera la dernière étape de la tournée des 20 ans de l'After. Depuis l'automne dernier, tous les mois, nous allons dans un cinéma pâté, dans une ville où l'After n'est jamais allé pour parler foot avec les auditeurs de l'After. Lundi 1er juin, nous serons au cinéma pâté de Valenciennes. Donc si vous êtes dans le coin, que vous voulez venir assister à l'After avec vos amis, en famille, et ben c'est très simple, vous envoyez un mail, c'est totalement gratuit évidemment, vous envoyez un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr, public@rmc.fr, vous vous dites voilà, je m'appelle, voilà mon nom, je serai là, et on vous confirmera bien sûr la bonne réception de l'email, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, il reste de la place, public@rmc.fr. Julien, alors, par quoi est-ce que tu veux démarrer? Parce qu'il y a 1000 dossiers là. Hein. Il faut qu'on parle d'Arsenal évidemment, qui a soulevé le trophée. Il faut qu'on parle des passes D de Bruno Fernandes. Il faut qu'on parle des nombreux adieux à droite à gauche.
Il y en a eu des adieux. Hein.
Et il y en a eu. Il faut qu'on parle de Tottenham maintenu, de Sunderland en Coupe d'Europe, du bid Chelsea. Voilà, parce que Chelsea qui finit 10e, c'est quand même incroyable, en Première Ligue. Bon, alors rapido, c'est vaincu Arsenal. Parce qu'on savait qu'ils étaient champions. Et là, il y a eu célébration. Bon, normal, quoi.
Normal, effectivement, mais c'était le jour du trophée. Donc, c'est vrai que c'est toujours particulier. Ian Wright était là. Beaucoup de supporters d'Arsenal, célébrités, entre guillemets, aussi. Beaucoup de supporters d'Arsenal qui étaient dans la tribune, pas pour les supporters visiteurs. Vous savez qu'en Angleterre, c'est très strict. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la tribune, d'acheter des billets pour la tribune normale si vous êtes... fan de l'équipe visiteur, mais là on avait fait des exceptions quand même et les supporters de Crystal Palace ont gentiment accueilli un peu partout des supporters d'Arsenal pour être là le jour où enfin après 22 ans d'attente.
C'est pas un club ennemi d'Arsenal.
Crystal Palace. Non, en plus, mais même enfin en temps normal ce serait pas autorisé, t'aurais pas vraiment le droit de le faire, mais là vu que c'était la remise du trophée et vu que du côté de Crystal Palace c'était aussi un petit peu la fête, même s'ils ont perdu au final de 2-1, mais ils se préparent pour la grande finale de mercredi bien sûr, donc c'était très bon enfant et donc ça a été accepté assez logiquement et naturellement on va dire. Et pour Arsenal c'est vrai que quand Martin Odegaard est allé chercher ce trophée de la Première Ligue, on l'a dit hein, pour la première fois depuis 22 ans, alors un trophée légèrement différent de celui d'il y a 22 ans, puisque celui d'il y a 22 ans, la version que le club a, elle est toute dorée, puisque c'était les Invincibles, et qu'ils avaient terminé la saison invaincus, alors que là, vous avez le trophée en argent, et juste la couronne en haut, en or, celle des Invincibles, elle est toute en or, elle est toute en doré. Donc celui-là est un petit peu différent, forcément, mais l'émotion restait la même, très très belle, pour cette équipe qui, donc, on l'avait dit déjà mardi soir, Gilbert était championne depuis mardi, mais qui a pu célébrer ça avec les 3000 supporters, donc, et un peu plus, qui était à Selhurst Park cet après-midi.
Voilà, et bien évidemment, on va beaucoup parler d'Arsenal cette semaine avec la finale de la Ligue des Champions qui arrive.
À noter qu'Arteta a fait pas mal tourner quand même. C'est dans son 11 de départ.
Oui, on s'y attendait aussi, Max. Ouais, bien sûr.
Pour préparer la finale de la Champions.
Il est blessé.
Visiblement, s'est tenu un peu la cuisse au moment de sortir. Il n'aurait pas été titulaire de toute façon samedi prochain, le week-end prochain, mais il aurait pu jouer un rôle en sortie de banc. Donc c'est à suivre, mais c'est vraiment le seul petit bémol, on va dire, de l'après-midi, parce qu'effectivement tout le monde a un peu joué. Même Christian Norgaard, qui avait jamais été titulaire en championnat, il aura sa médaille. Il a eu sa médaille parce qu'il était là aussi aujourd'hui, par exemple.
Bon, voilà pour Arsenal. Tottenham maintenant, parce que ça, c'était évidemment le feuilleton de ces dernières semaines, le maintien. Et finalement, maintien, oui. Donc, De Zerbi aura réussi un truc cette saison, quand même.
C'est vrai, tu as raison, Gilbert, il a réussi à les maintenir. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que, au coup sifflet final, alors qu'ils étaient, même si Everton attaquait, il aurait fallu qu'Everton marque deux buts, puisque un match nul, ça leur suffisait aussi, et ils menaient 1-0 Tottenham. Il est rentré sur le terrain en courant, et j'ai eu l'impression que très vite, il s'est dit, mais faut pas que je célèbre comme si on était champion, ou comme si on avait accroché avec des champions. Donc il s'est vite, il a un peu ralenti, il s'est calmé en disant, c'est bien sûr, mais il fallait se maintenir, c'est sûr, mais c'est pas non plus la célébration du siècle, vu comment t'as galéré, c'est simplement leur troisième victoire à domicile de toute la saison en championnat. Ils n'avaient plus gagné en championnat depuis le mois de décembre à domicile. Donc il y avait pas de quoi être fier. Après oui, t'es content bien sûr parce que ça aurait été un tremblement de terre s'ils avaient été relégués aujourd'hui. Mais donc t'es content, tu célèbres un tout petit peu le fait que tu t'es maintenu, mais que Tottenham avec son budget, avec son stade, avec son centre d'entraînement, avec ses joueurs et son entraîneur à 15 millions d'euros l'année de se maintenir, tu peux pas non plus célébrer vraiment. C'est pas possible.
Après moi j'ai suivi la fin du match. Il y avait quand même une atmosphère très particulière. Hein. Je crois qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. C'est vrai que il y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas de chant. Tu sentais que même si Tottenham avait deux buts d'avance par rapport au maintien, ils étaient quand même vraiment pas fiers. Il y a un arrêt du gardien extraordinaire à 3-4 minutes de la fin du temps additionnel. Il fait une parade exceptionnelle. Et là, tu sens que s'ils prennent un but là, ils sont pas bien. Même s'il y a deux ballons qui arrivent dans la surface, ils sont capables de prendre un but. Donc, c'est vrai quand même que bon, il y avait une atmosphère vraiment particulière. Mais quel stade. Et moi, je suis content pour Roberto De Zerbi parce qu'il a connu une saison quand même ultra difficile. Et d'arriver à maintenir ce club. Moi, je me disais, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Julien, mais moi, je pense que l'année prochaine, ils peuvent faire une belle saison. Tu vois, quand ça fait deux ans là qu'ils passent vraiment à côté et avec leur budget, avec ce stade,
tous en Coupe d'Europe,
avec cette énergie de revenir d'entre les morts, ça peut faire quelque chose avec un De Zerbi qui sera revanchard.
Ouais, peut-être. Alors De Zerbi, oui, je pense. On l'avait dit quand il était arrivé aussi. Hein. C'est un entraîneur qui forcément allait les rendre meilleurs. C'était obligé.
On est sûr qu'il va rester.
Ouais. Ouais, on est sûr qu'il va rester. Oui, bah déjà.
Bon, c'est peut-être lui. Il va pas vouloir partir, mais bon.
Bah après, les cinq derniers matchs, son bilan, il est quand même honorable. Hein. Il me semble qu'ils font 10 points sur 5 matchs.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Donc bon, c'est aussi grâce à ça qu'ils se sauvent.
Finalement, qui est un petit peu. Mais après, je suis d'accord avec toi, Kevin, dans un sens. Mais c'est un été très très important. Tu peux pas continuer à faire les erreurs qu'ils ont faites ces derniers étés aussi. Le directeur sportif Johan Lange, qui est très discuté en interne et en externe, ne pourra pas.
C'est celui qui était à l'Ajax.
C'est celui qui était à l'Ajax.
Mais ils en cherchent un deuxième parce qu'ils ont une direction sportive bicéphale. Il y avait la rumeur Sébastien Kehl qui arriverait de Dortmund parce qu'ils avaient Paratici et Johan Lange, on est d'accord. Donc en fait ils ont.
Ouais, mais ça n'avait pas marché non plus.
Bah, pas du tout.
Mais comment tu peux avoir deux directeurs sportifs?
C'est comme ça que ça a été.
Je crois que Julien disait qu'il y en a trois à Chelsea.
Ouais, Chelsea, il y en a plus aussi.
Cinq.
Il y en a 5 à Chelsea, ouais.
5 Kevin Diaz, tu te rends compte? Alors, un, nous, ça nous va, mais 5 Kevin Diaz,
déjà un, on s'en mêle les pinceaux, 5.
Non, mais je pense qu'on a énormément critiqué Daniel Levy. Daniel Levy qui, à son arrivée, Tottenham était tout de même un club de milieu de tableau. Il les a laissés en tant que club moderne, participant à la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'il manquait aussi, en fait, cette autorité, tout au long de cette saison. Vitek Hesham, qui était, l'ancien CEO d'Arsenal, je pense qu'il a pas forcément ni les compétences, en fait, ni le charisme, ni, pour gérer une situation de crise aussi importante. Après, l'effectif est bon. Il y a des trous dans cet effectif, mais l'effectif est bon. L'effectif avec Kudus, avec Kulusevski, avec Madison, avec Solanke, si tous ces joueurs reviennent de blessure, il y a une bonne base de jeunes. Archie Gray, Pape Matarsar, Lucas Bergvall, Poporo n'est pas encore jeune. Distini
Udogi. Revient dans le top 5
Top 5 peut-être. Ouais, qualification Coupe d'Europe, bien évidemment, à mon avis. Attends, si tu vois que Sunderland fait 7e cette saison, l'effectif renforcé de manière correcte, il n'a rien à envier en fait à des équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe cette saison. Bah, rien du tout.
Oui, on verra.
Bon, on verra effectivement.
Enfin, je suis convaincu par contre.
Pour Tottenham. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de Sunderland, parce que ça c'est quand même la sensation finalement de la fin de saison. Ils avaient bien démarré, après on avait un peu oublié Sunderland parce qu'ils étaient dans le ventre mou. Bon, il y a même eu un moment où le Brice semblait un peu en danger, tout ça. Et puis finalement, ils reviennent de loin pour finir en Coupe d'Europe, ce qui est historique pour Sunderland.
Ouais, 7e, c'est une saison incroyable. Sincèrement, bravo à Régis et à Florent Gisolfi aussi, le directeur sportif qui était arrivé de la Roma l'été dernier, et à ce groupe de joueurs-là. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ça a été plus compliqué pour eux. Mais rappelez-vous, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations, ça, qui correspond avec la mauvaise période, surtout, où ils avaient perdu 6 joueurs, dont des joueurs très importants comme Diarra et comme Sadiki et Reynildo, par exemple. Et donc, forcément, je pense que si t'enlèves à n'importe quelle équipe de première ligue de ce niveau-là, je te parle pas des gros, mais 3 ou 4 titulaires indiscutables et parmi tes meilleurs joueurs et parmi tes leaders, ce serait compliqué pour n'importe qui. Et sincèrement, je pense que même s'il n'y a pas la CAN, ils sont pas loin, ils auraient facilement, on en avait parlé avec Enzo Lefay qu'on a fait dans l'After Angleterre, d'ailleurs vous pouvez toujours le retrouver à écouter parce que c'était fantastique, vraiment Enzo il était incroyable, il fait une saison encore, le match qu'il fait aujourd'hui il est en patron, sincèrement il est en patron, je sais pas combien de temps il restera, mais alors je sais qu'à la Roma ça s'était pas bien passé, mais c'est un joueur, sans faire offense à Sunderland, qui est bien trop fort pour Sunderland et qui va viser plus haut et qui un jour ira
enfin tu dis
haut,
ça maintenant mais Enzo Lefay à l'époque on se demandait s'il était assez fort pour Lorient.
Et non, mais surtout que c'est un émotif. Il a surtout besoin d'être vraiment bien encadré, intégré. Et la relation avec le Brice, elle est hyper importante aussi pour son épanouissement. Même si t'as raison.
Ouais, c'est sûr. Mais donc voilà, donc sans la CAN, je pense que même ça aurait été encore un peu mieux en termes de quelques points et tout ça. Mais 7e, c'est incroyable. Granit Xhaka, pour moi, est pas loin d'être la recrue de la saison l'été dernier, vu l'impact qu'il a eu sur cette équipe. Et l'autre période un peu plus compliquée d'ailleurs pour Sunderland, c'est aussi quand Granit Xhaka s'est blessé. Il y a pas de secret. Un petit peu comme le disait Gisolfi dans l'interview, si vous l'avez vu dans l'équipe d'aujourd'hui, ouais. Où il disait je croyais que le joueur parfait n'existait pas. Et puis après j'ai rencontré Granit Xhaka. C'est un petit peu ça. Sincèrement, l'impact qu'il a eu sur cette équipe et sur ce club était juste phénoménal. Donc voilà, bravo à eux vraiment. Hein. Alors l'année prochaine, le problème, même si je pense qu'ils vont continuer à investir et de façon intelligente, c'est que ça va être très compliqué à gérer le jeudi, le dimanche, le dimanche avec la Coupe d'Europe. Voilà, avec la Coupe d'Europe va pomper beaucoup d'énergie aussi et tout ça. Mais bravo à eux. La dernière fois que c'était en Coupe d'Europe, c'était en 1973. Donc ils ont. Quand tu penses qu'il y a 18 mois, ils étaient encore en Championship, c'est magnifique.
Exactement.
Ils étaient en Ligue 1 il y a 3 ans, donc c'est ça, c'est impressionnant. Ouais.
Et Kevin, d'ailleurs, on en parle souvent quand on parle ensemble de Sunderland, mais le fameux documentaire, bien sûr.
Il commence à dater celui-là maintenant.
Mais encore plus, Gilbert. Ouais. Encore plus, quand tu vois où ils sont aujourd'hui, c'est bien de se replonger dans la galère dans laquelle ils étaient à ce moment-là, avec des gens complètement incompétents dans des rôles clés. Et sincèrement, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, allez le voir et vous comprendrez encore mieux l'incroyable miracle qui est en train de se passer à Sunderland, vu d'où ils sont partis il y a 4 ans.
Mais comme quoi, tu vois, tu parles.
Moi, je regrette que Granit Xhaka ne pourra jamais jouer avec Alain Roche.
Granit Roche, pas mal.
Pascal Pierre,
ouais.
Mais tu vois, tu parlais du club, que ce soit pour le documentaire de Sunderland qui est extraordinaire, mais également pour celui de Wrexham que moi je découvre depuis quelques semaines, qui est aussi fabuleux. C'est qu'en fait un club, c'est d'abord sa communauté et son histoire avant d'être les gens qui sont à l'intérieur, et c'est-à-dire les dirigeants, qu'ils soient compétents ou pas. Mais à partir du moment où t'as une base de supporters ou t'as une base de fan aussi large que Sunderland, qui est un énorme club, notamment avec sa rivalité avec Newcastle notamment, mais aujourd'hui on parle souvent du football anglais, il y a de l'argent, il y a pas mal de choses, tu vois, on a reçu nous dans Génération After Amine Mathieu qui a fait son match ce soir au Parc des Princes, qui est quand même une sacrée réussite pour tout ce qui est entertainment, hein, c'est pas du sport exactement, mais lui il disait que les suiveurs de sport ou les youtubeurs ou les gars de Twitch, les influenceurs anglais avait, Julien, des millions de followers. Mais genre 5, 10, 50 fois plus qu'en France. Et moi, je lui expliquais, je lui dis, mais tu te rends pas compte, l'Angleterre, en fait, ils ont une fanbase de foot, mais c'est même pas des fanbase, c'est vraiment des ils ont quasi, alors ils ont pas les ultras comme nous, mais c'est comme si, eux, ils avaient que des ultras dans leur stade.
C'est pas l'ultra,
je parle de la culture.
La notion de communauté.
Mais je parle de la notion de supporter, mais vraiment, jusqu'au bout des ondes. Moi, de leur marqué, club, et que ce soit une mamie, une famille ou un mec de 25 ans qui met une cagoule, un bonnet, une casquette et une écharpe. Non, là c'est tout le monde qui suit ce club. Et dans le documentaire de Sunderland ou dans celui de Wrexham, qui est en 5e division au départ, mais tu sens que le club, c'est la famille.
J'avais dit, ça m'avait marqué. Moi, quand je suis arrivé à Sheffield United, j'avais 17 ans, j'arrivais du stade de Reims, et tu l'as très, très justement dit, Kevin. Alors, j'étais mineur, donc je pouvais pas avoir mon propre appartement, donc on était logé dans des familles d'accueil. Et alors, les week-ends de match, ça partait de la grand-mère au grand-père, à l'oncle, à la tante, ils se retrouvaient tous et ils partaient tous au stade. C'est vraiment ça fait vraiment partie de la famille. Je pense que tu vas le confirmer, David, toi qui connais très bien, bien le championnat anglais. Et en règle générale, c'est vrai que les gens vivent, en fait, pour ce club. Et dans le documentaire de Sunderland, en effet, sur Netflix, on le voit très bien. Et c'est vrai que forcément, voilà, ça crée aussi une culture, ça crée une identité. Et ce qui est très beau aussi, c'est que même quand les clubs vont mal, les supporters continuent à les suivre.
Après, le problème de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre à foutre quand même.
Il n'y a pas grand chose.
Il y a pas mal de clubs aussi qui sont partiellement, mais qui sont aussi détenus par leurs supporters. En fait, le système de sociaux, c'est un peu différent, mais il n'existe pas uniquement en Espagne. Il y a à l'époque Wimbledon, quand ils sont descendus, quand il y a eu la scission avec le MK Dons, ils ont été détenus par leurs supporters. Portsmouth, avant d'être racheté par le PDG de Disney, a été détenu par les supporters.
Wrexham a été détenu par leurs supporters avant d'être racheté.
Allez, on continue la discussion avec Julien dans quelques instants, mais d'abord un point F1. Jean-Luc, où en est-on du Grand Prix du Canada ?
Nous sommes au 52e des 68 tours, finalement, parce qu'avec les tours de formation, on a déduit deux tours, ce qui est normal. Et on a toujours Antonelli qui bat et rebat le record du tour. Là, il vient de signer un chrono d'une 14-604 et il compte 7 secondes d'avance sur Verstappen. Verstappen, lui, qui est sous la menace et à l'instant un virtuel safety car. Décidément, ça n'arrête pas. Ça a été une course à rebondissement. Tout à l'heure, on a eu également un virtuel safety car pour à peine un tour. Donc, on a Antonelli leader, je répète. Verstappen, deuxième, à 10 secondes maintenant. Hamilton est tout proche. Il est à 2 secondes de Verstappen. Et puis, Charles Leclerc est quatrième, mais assez loin, à une quinzaine de secondes d'Hamilton. Ensuite, on a Hadjar qui s'arrête au stand. Hadjar, attention, qui est sous investigation. Il a bien pris les 10 secondes de pénalité tout à l'heure pour la manœuvre dont je parlais au détriment de Charles Leclerc. Et là, il n'aurait pas respecté les drapeaux jaunes. Donc, il peut avoir une pénalité supplémentaire. Il s'arrête au stand. Colapinto est 6e, Lawson 7e, Gasly 8e, Sainz 9e et Berman 10e. Je répète, on est sous régime de virtuel safety car.
Le tennis, Eric, qu'est-ce que ça donne pour Djoko ?
Novak Djokovic qui va servir pour le gain du match, Gilbert, après 2h47 de combat. Il mène deux manches à une, 5-4 donc pour le Serbe. Il est au service, donc c'est dans 2-3 minutes, ça peut s'achever donc pour Giovanni Pichy-Pirikar, mais le spectacle aurait été de qualité pour cette night session.
Et toujours la dernière journée de Première Ligue au programme de l'After dans quelques instants avec Julien Laurence. On se retrouve tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h20, on est là jusqu'à minuit dans l'after. Kevin Diaz, David Guzman, Maxime Chano sont là. Plus les directs. Jean-Luc, il se passe des trucs là encore.
Ah oui, là ça n'arrête pas parce que là, c'est la Ferrari de Charles Leclerc là, qui est au ralenti. Bah, apparemment, est-ce qu'il a eu un problème où il a tapé le mur ? Attends, on est en train de nous remontrer ce qui s'est produit. En tout cas, il a eu un problème majeur là, semble-t-il, puisque je l'ai vu au ralenti là, il y a un instant sur l'image qu'on va sûrement nous proposer. Là, ce qu'on nous propose, c'est Hamilton qui revient sur Verstappen, ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque l'écart est extrêmement réduit entre le deuxième et le troisième de ce Grand Prix. On a vu également les raisons pour lesquelles, tout à l'heure, Piastri a été pénalisé de 2 secondes. Il était venu percuter Albon, en fait, au freinage de la chicane du fond également. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû lui changer le museau. Alors, j'observe, non, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, cette image fugitive de la Ferrari. A priori, je ne vois pas de problème, en tout cas, pas sur le live timing. Donc, a priori, tout va bien toujours pour Hamilton, 3e, et Leclerc, 4e.
Julien, juste un mot avant de parler de Chelsea, puisqu'on parlait de Sunderland en Coupe d'Europe. Bournemouth se qualifie également pour la première fois en Coupe d'Europe. Donc, ils seront eux aussi en Ligue Europa.
Moi, c'est ça. Alors, il rêvait de la Ligue des Champions. Ça aurait été beau, puisqu'on aurait pu avoir une 6e équipe de première ligue en Ligue des Champions. Il aurait fallu que City gagne, que Liverpool perde, ça s'est pas fait. Donc au final, c'était pas la Ligue des Champions, mais ce sera l'Europa League pour la première fois. Tu l'as dit, Gilbert, en Coupe d'Europe, magnifique. Andoni Iraola avant de quitter le club, il a quitté le club. C'était son dernier match. Je sais pas au niveau des joueurs. On sait que tous les ans, un peu, c'est un peu leur modèle finalement. Et ils vendent leurs meilleurs joueurs. Rappelez-vous l'année dernière entre Zabarni par exemple et
Huijsen.
Et Huijsen, exactement, et Kerkez. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'attend peut-être à ce que d'autres joueurs clés puissent partir et parmi les meilleurs, voire même Elie Kruppi Junior. Mais en tout cas, bravo à eux parce que c'est une saison incroyable, invaincu sur 18 matchs, sur les 18 derniers matchs de la saison en championnat. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire.
Et tu vois, tu parlais d'Iraola, moi j'ai joué avec lui 2 ans à New York et je peux te dire, je fais le parallèle avec ce que a dit Gundogan sur Compagnie en disant que quand il a joué avec lui, il voyait déjà que ça sera un très bon manager. Alors si je peux te dire que j'aurais pas mis une pièce sur Andoni en tant que bon entraîneur. Ah ouais, vraiment, très discret.
Tu m'as jamais raconté cette histoire.
Ah bah je te l'ai dit aujourd'hui, tiens.
Vas-y, alors c'est vrai, tu n'as pas senti
c'était
ça
pas
lui.
Le plus expressif. Déjà son anglais, un anglais complètement cassé. Bon, j'imagine qu'entre-temps, il a dû apprendre. Super gars, attention, un très bon ping-pong.
Ça peut faire la différence.
Bon, de là à le voir entraîner de cette manière-là.
Est-ce qu'il aurait gagné le tournoi de l'after de ping-pong ?
de ping-pong.
Qu'est-ce qu'il nous aurait aidé, la légende.
Il nous aurait en finale contre.
Il nous aurait aidé au tournoi de la presse.
Kevin Diaz.
Un tournoi que Kevin n'a pas voulu faire. Non, ça c'est autre chose.
Il y a des statues à un moment.
Attendez. C'est fini à Roland Garros et Djokovic danse sur le court.
Petit pas de danse, oui, effectivement, pour Novak Djokovic, pour saluer.
Danse un peu comme Donald
cette
Trump.
Cette nouvelle victoire à Roland Garros. Ça n'a pas été simple, hein, pour le Serbe, puisque il a mis 2h51 pour s'imposer, donc en 4-7, 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Giovanni qui quitte le court ovationné. On le reverra, notamment à Wimbledon, parce que quand vous avez un service comme le sien, vous pouvez avoir de grosses ambitions sur le gazon londonien. Djokovic qui jouera donc au prochain tour un autre Français, Valentin Royer. Et puis on va aussi vibrer pour le Pierre Hugerbert qui va peut-être emmener les spectateurs au bout de la nuit puisqu'il est en passe de recoller à deux manches partout contre Sonego. C'est ça le tennis, Gilbert, ça ne s'arrête jamais.
Très bien. Écoute, tu restes pour ce match là du coup ou tu t'en vas?
Et on a un podcast à faire, donc on va évidemment
pour toi, ça s'arrête le tennis quand même.
Et on va le faire en direct du cours Simone Mathieu. C'est le plus de notre podcast.
Bravo. Podcast disponible sur rmc.fr et sur les applis, bien sûr. Merci Eric, bonne soirée. Je reviens. On s'en fout du ping-pong, dira oh là, c'est bien gentil, mais on va voir ce que ça va donner, surtout comme dans son futur club, n'est-ce pas? Chelsea. Bon, là, il faut quand même en parler parce que c'est quand même le bide absolu. Blouko a tout foiré, hein, que ce soit finalement Chelsea ou Strasbourg cette année sportivement, il n'y a rien qui fonctionne. Alors Chelsea, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle des problèmes, du sureffectif, des mauvaises gestions, des mauvais choix. Bon, enfin là, cette année, t'as l'impression, Julien, que c'est la saison des dingueries ultimes, quoi. Donc, comment on va rebondir à Chelsea? Que va-t-il se passer? Bon, j'imagine qu'il va y avoir un coup de balai, il va encore y avoir mille mouvements dans tous les sens. Bon, enfin, cela a bien fait rigoler l'Angleterre, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. Alors, ils ont déjà annoncé l'arrivée de Xabi Alonso, ce qui est déjà très bien pour commencer. Parce que c'est finalement, quand tu regardes dans tout ce chaos, dans tous les dingueries, comme tu l'as très bien dit, qu'ils ont pu faire ces dernières années, quand Maresca était là et quand il a pu faire ce qu'il voulait, il y avait quand même de la cohérence et ça t'a amené, alors une Conference League, d'accord, c'est la petite Coupe d'Europe, mais c'est quand même une Coupe d'Europe. La Coupe du Monde des clubs, c'était autre chose. Et même si tu peux parler de leur parcours, la finale, c'est contre le PSG, le grand PSG, et on peut trouver des raisons pour lesquels le PSG a perdu de cette façon-là, mais c'était quand même masterclass côté Chelsea à ce moment-là, sur notamment le début de match, et il n'y a pas eu photo sur la première période notamment, donc il y a eu des bonnes choses, mais finalement quand tu mets sur une quand tu pèses les deux, les bonnes choses que Maresca avait pu mettre en place quand il avait pu le faire et tout le reste, tout ce que ce club est en train de faire depuis l'arrivée des Américains, c'était trop négatif finalement, et c'est pour ça que ça a explosé. Quand tu finis un championnat comme tu l'as dit, Gilbert, à la 10e place, que t'as autant de victoires que de défaites en championnat, c'est une humiliation. 14 défaites en première ligue, dans cette première ligue là, cette première ligue où on le dit depuis le début de la saison, c'est niveau moyen, que t'es perdu 14 matchs, c'est hallucinant. Sincèrement, c'est hallucinant. Deux fois, tu perds contre Sunderland, à l'aller, au retour, chez toi et à l'extérieur. Enfin, c'est des trucs qui s'est passé hallucinant. Donc oui, l'instabilité sur le banc, bien sûr, ils auraient jamais dû se séparer de Maresca, ils auraient jamais dû le virer comme ça. Ils l'ont viré comme un malpropre. Et sincèrement, c'était la plus grosse erreur. Après, pour Rossignol, il était pas prêt, ils s'en sont pas rendu compte, il était déjà là, c'était compliqué, c'était trop tard, et ça les a fait reculer encore plus. Et puis après, la saison elle est foutue de toute façon, donc le pauvre Callum McFarlane qui est arrivé comme intérim pour les 5 dernières journées, il peut rien faire, le pauvre. Et puis encore cet après-midi, pardon, t'as encore un carton rouge. C'est l'équipe qui a le plus de cartons rouges en Europe.
Fofana,
je crois, si tu comptes toutes les compétitions, c'est 10, je crois, ou 11.
C'est Fofana qui prend incroyable. Le rouge. Pour moi, ça va être le gros chantier de Chelsea. Ça va être la défense centrale. Je pense qu'il y a du gros travail côté Xabi Alonso. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'aime bien.
Tsar, déjà.
Évidemment, en tant que pro strasbourgeois.
Après,
on a vu ce que ça a donné quand il a joué. C'était compliqué.
Il va quand même s'adapter.
Là où je suis content, moi, avec Xabi Alonso, c'est justement son côté éducateur. Et si je fais le parallèle avec Leverkusen, ce qu'il a fait avec Frimpong, ce qu'il a fait avec Florian Wirtz, j'ai bon espoir qu'il fasse de même à Chelsea, redonner un petit peu un élan, par exemple, à Cole Palmer. On en a parlé un peu plus tôt hier, où est-ce que c'est vrai qu'il a été en dessous sur sa saison. Estevao, par exemple, quand il reviendra de blessure. Enfin, je trouve que Xabi Alonso, il peut être intéressant sur ce profil-là, en tout cas, de pouvoir refaire évoluer certains joueurs.
Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais alors, pour le coup, je pense qu'il devrait appeler Prime Video. vidéo, nos amis de Blueco, parce que cette année, pour eux, avec Xavi Alonso, c'est all or nothing. Là, s'ils n'y arrivent pas avec lui, je pense qu'il faut qu'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils aillent faire autre chose. Parce que là, ils ont quand même essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et s'il n'arrive pas, lui, avec son expérience, alors en plus, il a l'expérience quand même grande d'avoir eu un échec cuisant dans sa carrière. Et on sait que pour un entraîneur, mine de rien, c'est très, très important. Et en général, c'est très, très formateur, si je peux dire. Mais là, s'il n'y arrive pas, lui, maintenant... Bah, franchement, je pense que je sais pas ce que je sais pas ce qu'on dit en Angleterre, mais dans ce cas-là,
oui, coup, ça peut y arriver, tu veux dire.
Non, mais c'est un énorme coup pour Chelsea déjà d'avoir réussi à convaincre, ouais, à attirer.
Chelsea, ça reste un gros club.
Mais c'est un beau. Moi,
c'est un beau challenge. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, ils sont tellement catastrophiques. Non,
une petite constatation quand même, mon cher Julien. Strasbourg finit 8e, Chelsea 10e. C'est qui le petit frère?
C'est vrai.
Exactement.
Moi, je me permets de.
Moi, je pense que tu devrais récupérer Enzo Fernandez et Cole Palmer à Strasbourg cet été. Hein,
Affilié Barco et Mega. Voilà, une demi-finale de conférence.
J'annonce qu'Emega, je vais suivre particulièrement son temps de jeu. Hein. Je ne sais pas ce que
c'est. Emega, alors moi, j'en ai parlé. Hein. Moi, Emega, je lui souhaite de réussir à Chelsea, mais je le vois plutôt en prêt à Burnley au mois d'août. Hein.
Mais moi,
à Bolton.
Je suis quasiment persuadé en fait qu'ils n'ont pas fait exprès, mais ça ne les dérange pas du tout de ne pas jouer de Coupe d'Europe, parce que vous savez qu'il y a un ratio de contrôle des coûts en fonction donc des dépenses joueurs, en fonction des revenus. En Première Ligue et en Coupe d'Europe, et il est plus souple en Première Ligue qu'en Coupe d'Europe. Donc en fait, de par son déficit qui est absolument abyssal et monstrueux, Chelsea aurait dû beaucoup plus vendre s'il avait joué la Coupe d'Europe, n'importe quelle Coupe d'Europe, que s'il ne la joue pas. Donc ça leur donne plus de latitude pour se reconstruire et se renforcer, ne pas jouer la Coupe d'Europe que de jouer la Coupe d'Europe. Donc c'est, finir dixième, c'est pas si grave que ça.
On parlait des cas d'école qui pourraient être étudiés dans les universités américaines.
Mais là, c'est financier, là. Là,
c'est, mais justement, c'est quoi l'université américaine? C'est Cambridge, je sais pas, Harvard?
Non, c'est Cambridge, c'est en Angleterre.
C'est vraiment à la rue, c'est les universités américaines.
Je sais pas laquelle devra l'étudier, si une anglaise, une écossaise, une américaine. Mais là, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, Blueco à Chelsea, mais c'est plus un cas d'école, là. C'est un cas d'espèce, je sais pas.
Tu peux le grouper avec Ineos Anis aussi, je pense que
c'est. Non, mais c'est pire, Blueco à Chelsea.
C'est vrai que cette année, c'est vraiment, en plus, il y a eu des mauvaises nouvelles.
Tu nous fasses un podcast, là. Un podcast after écho, mais.
Merci.
Je l'ai pas écouté.
Bon, attendez, pause.
Sur Blueco?
On va continuer encore avec Julien quelques minutes parce qu'il y a d'autres choses à dire, notamment sur les adieux des uns et des autres ce soir. Mais d'abord, un point F1. Jean-Luc, le Grand Prix arrive vers sa fin là.
Ah oui, on est au 63e des 68 tours et une très belle manœuvre de Lewis Hamilton lui a permis de dépasser Verstappen pour la deuxième place. Donc le podium se modifie et Hamilton est en mesure de réaliser sa meilleure performance depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Il avait déjà signé un podium, hein, on s'en souvient, mais sur la troisième marche, là, il devrait être sur la deuxième. Donc, il reste encore. C'est un sport mécanique, hein. Faut attendre jusqu'au bout. Mais Antonelli, une Mercedes. Hamilton, une Ferrari. Verstappen, une Red Bull. Et puis, Leclerc avec l'autre Ferrari. Et Hadjar, qu'on arrête à nouveau au stand. Là, apparemment, j'espère que ça n'est pas grave. Il était cinquième devant Colapinto, sixième. Lawson, septième. Pierre Gasly est également dans les points, huitième devant Sainz et Berman.
À tout de suite avec toujours l'Angleterre au programme avant d'aller en Italie où la dernière journée s'est jouée également ce soir avec pas mal de rebondissements. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h33, Kevin Diaz, David Guzman, Maxime Chano, Julien Laurence et Jean-Luc Roy pour l'AF1 qui est en passe de se terminer. Rapidos, ça a bougé Jean-Luc?
Pas pour le moment, mais on voit que Verstappen ne lâche pas. Hein. Il est revenu dans la seconde derrière Hamilton, donc jusqu'au bout, il va l'attaquer. Donc, les places sur le podium ne sont pas assurées, toujours, parce que là, Hamilton, il s'est fait reprendre quelques dixièmes par Verstappen. On peut être tranquille. Jusqu'au dernier freinage du dernier tour, Verstappen sera dans la boîte de vitesse.
Il y a un moment, ils vont quand même se battre pour la victoire cette année, ou c'est mort?
Ça peut arriver, tu vois la preuve. Hein. Là, on a la preuve.
Non, mais sans qu'il y ait d'accident des Mercedes.
Absolument. absolument. Tu sais qu'au 1er juin, c'est-à-dire demain, après-demain, avant en tout cas le Grand Prix de Monaco, les Mercedes vont perdre une partie de leur avantage au plan technique parce qu'ils avaient trouvé une astuce pour le moteur, tu sais, pour avoir un taux de compression, je ne vais pas être trop technique, mais qui leur donnait 15 à 20 chevaux en plus. Ils avaient trouvé une astuce, ils n'ont pas triché, mais ils ont exploité ça. Tous les autres se sont réunis, ils ont râlé, donc la FIA a dit OK. Donc on va ramener les moteurs Mercedes au niveau des autres. Donc ils vont perdre cet avantage et on saura à partir de Monaco, même si Monaco, comme tu le sais, est un tracé atypique, si réellement ça leur fait perdre une bonne partie de leur avantage ou pas.
Ok.
On a tout lu sur Blouko et Chelsea, les gars. On peut passer au dossier suivant.
Bah, je sais pas, c'est à toi de nous dire. Moi, j'ai quand même une question pour Gilbert.
Ouais.
C'est comment tu vois très rapidement, en deux phrases, l'intersaison et le futur proche du Racing Club de Strasbourg.
Felipe et Louis, s'il me plaît.
Ouais. Oula, c'est une info. C'est un souhait, une info.
C'est je dis qu'il me plaît.
Oui, bon, on a compris.
Vas-y, Julien, fais-moi rêver.
Non, mais parce qu'il va faire du très bon travail à Strasbourg. Mais tu sais pourquoi il va être mis à Strasbourg?
En couveuse.
Ah oui.
Bienvenue dans la sphère.
Mais parce qu'après, pour moi, aujourd'hui, Felipe Luis, et encore une fois, j'adore les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises, la Méno, etc. Mais il pourrait facilement viser plus haut. Felipe Luis aujourd'hui.
Ah oui, et tu pars de Flamengo.
Tu vois, il était dans la conversation à Liverpool, par exemple, au cas où tu départ d'Arne Slot. Même à Chelsea, il a fait des entretiens, etc. etc. Donc, l'idée, ce serait à Strasbourg pour le préparer, etc. Et puis après, si ça ne marche pas avec Xabi Alonso, ou si Xabi Alonso, à un moment, bah, je sais pas, part à Liverpool, part ailleurs, ce sera parfait pour le remplacer.
On a parlé de Iraola, c'est quoi, ce serait Palace, potentiellement Liverpool. J'ai lu Leverkusen. C'est un choix un peu étrange parce que lui, il a déjà été remplacé par Marco Rose à Bournemouth. Quelles sont ses options maintenant?
Lui, il veut le niveau au-dessus de Bournemouth. Moi, j'arrive pas du tout à croire qu'il ira à Crystal Palace. Après,
mais Crystal Palace, c'est vraiment le niveau au-dessus par rapport à...
Non,
c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il y a, tu vois, parce que sincèrement, c'est pas
du côté de la Ligue 1. Non, il va absolument rester en première ligue.
Non, pas n'importe où, enfin n'importe où en Europe, mais oui. À un club de Ligue des Champions.
Ça, c'est cousin, Julien.
C'est ce que ça Marseille. Cherche. Ouais. Ou alors t'attends Liverpool. Hein. Moi, je pense que Slot, il sera pas là Noël. Donc, il y a pas mal de gens en Angleterre qui pensent ça aussi. Et tu peux attendre.
J'aurais pas Rick Van, par exemple, vu Xabi Alonso, moi, à Liverpool. C'est vrai que je pensais qu'il aurait peut-être attendu.
Ouais. Je trouve ça incroyable qu'ils aient pas bougé, moi, Liverpool.
Il a sauté sur l'option Chelsea. On verra ce que ça donne.
On va conclure, Julien. Pas mal, évidemment, dernière saison, dernière journée, c'est toujours la même chose. Il y a pas mal de joueurs qui déclubent, qui arrêtent. Entraîneur aussi, donc Guardiola évidemment, c'est emblématique aujourd'hui. Salah également. Quels ont été les adieux principaux du jour?
Bah, c'est cela, tu l'as dit dans l'email que j'ai envoyé au drôle de dame et à Jimmy et à Najim, nos producteurs pour demain. J'ai appelé ça séquence émotion un peu partout en Angleterre parce que c'était vraiment beau aujourd'hui. Hein. Sincèrement, si vous avez regardé et même sur les réseaux sociaux, je sais que les réseaux parfois c'est un peu la jungle et l'enfer et c'est pas toujours.
Attends, Julien, je te coupe parce que c'est le dernier tour en F1 et un dernier tour avec Jean-Luc Roy, faut en profiter.
Ah bah voilà,
tous les jours.
Kimi Antonelli qui va triompher. Vraiment, ça a été une belle bataille avec son équipier d'abord et puis après pour maintenir évidemment les autres à distance. Et c'est éblouissant ce qu'il fait parce que quatrième victoire de rang, hein, du coup. Donc là, il prend une avance considérable au championnat du monde. Il comptait 18 points d'avance sur son équipier George Russell après la sprint race et avant ce Grand Prix. Il en prend 25 de plus. Derrière, eh bien, Hamilton réalise une très belle opération en terminant deuxième. Il a maintenu Verstappen jusqu'au bout. Donc Hamilton, un deuxième podium avec la Ferrari et sur une deuxième place. Donc on s'en rapproche peut-être de la victoire à venir sous les couleurs du Cavallino Rampante. Et derrière, on aura Verstappen qui fait une très belle course. Il est parti sixième, il termine troisième. Charles Leclerc qui va être un peu déçu, évidemment, de terminer quatrième, mais très loin. Il est à plus de 30 secondes de Verstappen. Et puis Hadjar qui a fait un beau Grand Prix, même s'il a été pénalisé deux fois. 10 secondes de pénalité, puis stop and go. Le dernier passage au stand, c'était la pénalité pour ne pas avoir respecté le drapeau jaune, apparemment. Mais ça ne lui coûte pas sa cinquième place. Donc, ce qui est un très beau résultat. Colapinto est sixième, Lawson septième. Pierre Gasly est bien remonté de la 14e place pour pour terminer 8e. Sens est 9e et Berman 10e. Rendez-vous à Monaco dans 2 semaines. Ça va être une ambiance différente.
C'est 18 ans. Il a quel âge? 18 ans.
19 ans. Anthony. 19 ans. Ouais, mais il a débuté à 18 ans.
Crack. Tout pile.
Ah ouais, non, mais là, c'est un cadeau. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Parce que là, le baston avec.
Mais t'es malade de le relancer là-dessus. Il va te faire 5 minutes.
Non, mais c'était.
Moi, j'aime trop ça, la Formule 1. C'est magnifique.
Là, il a été impressionnant. Parce que là, il a fallu aller la chercher. Hein. Ah ouais. On a bien vu. Bon, Russell a eu ce problème mécanique, mais je pense qu'il l'aurait eu parce qu'on voyait qu'il était plus rapide. Intrinsèquement, il était plus rapide.
Je suis quand même sacrément impressionné par tous les papiers qu'il y a devant toi.
Ah, moi, j'ai pas mal de choses dans la tête, mais comme il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'écarts,
Jean-Luc, c'est un spectacle. Tu viens dans un studio, c'est un spectacle.
Sauf sur les dates, Jean-Luc.
Bravo. C'est ce qu'on appelle être studieux.
Pourquoi pas sur les dates?
Parce que tout à l'heure, tu as dit le 1er juin, c'est demain ou après-demain. J'espère pas, parce que sinon, j'aurais raté la finale.
C'était une approximation. Attends, là, c'était à la louche. Non, tu peux.
Pas de folie pour rentrer à la maison, tu roules doucement.
Je vais rouler comme d'habitude. bonne fin d'émission. C'était un plaisir.
Bon, alors donc, je reviens, Julien, vers ces aux adieux, là, donc, des uns et des autres.
On a vu effectivement. Ouais, je parlais juste rapidement sur les réseaux sociaux parce que si vous n'avez pas vu ce que les clubs ont fait pour les adieux pour Robertson ou Salah avec les familles, les filles de Salah, le petit message vocal de la famille de Robertson, ça vous met les larmes aux yeux, hein, sincèrement. Pareil côté de Manchester City et puis sur le terrain, c'est ce qu'on a vu aussi. On a vu Bernardo Silva être remplacé en début de seconde période et pleurer sur le terrain, aide d'honneur des joueurs de Villa et de City. Pareil pour John Stones après, standing ovation pour les deux bien sûr. Guardiola à la fin. Forcément, Robertson et Salah, c'était très très émouvant, très très beau aussi. Salah avec sa dernière passe d'ess pour Liverpool, pour Curtis Jones. Extérieur pied gauche, c'est un peu la ce qu'il nous avait habitué à faire pendant les deux ans qu'il a passé au club. Ouais. La spéciale, voilà, c'est le mot cherché, Max.
Et Pep qui a pleuré pour la sortie de Bernardo Silva, mais pas celle de John Stones. Qu'est-ce qu'on doit penser? C'est qu'il était plus proche du portugais.
Oui, sûrement. Et puis c'était le premier aussi, donc il avait peut-être, tu vois, c'était Bernardo qui était parti en premier. Pour Bruno Fernandes, qui a battu le record de passes décisives de Thierry Henry, de Kevin De Bruyne avec 21.
Quel monstre ce Bruno Fernandes, mais quel monstre extraordinaire.
Thomas, on en a combien lui?
Et Walid qui disait tout à l'heure dans Génération After que ça lui fait pas grand chose, ça lui faisait pas grand chose. Franchement, mais ça c'est tellement mon football, c'est tellement.
Tu ressens rien quand tu regardes Bruno Fernandes jouer. Je pense que t'as rien compris. Je dis pas ça pour Walid, mais sincèrement. Oui. Cette saison, il est extraordinaire. Il porte cette équipe. Les larmes à West Ham, en revanche, de tristesse pour la descente. Donc, on avait dit, c'était Tottenham ou West Ham. Tottenham s'est maintenu, on en a parlé tout à l'heure. Pour West Ham, malheureusement, ce sera une saison pour Salim, effectivement, en Championship, avec le départ de Bowen et des joueurs principaux.
Matheus Nunes, à mon avis, ils vont perdre.
Ouais, sûrement aussi, tout à fait.
Castellanos, qui est arrivé de la Lazio de Rome.
Je pense qu'il peut rester, Tati Castellanos. Ouais, je pense
qu'il est encore marqué aujourd'hui. Moi, je ne vois pas jouer en Championship.
150 millions de ventes, ils doivent effectuer.
Il y a une valeur marchande encore, Castellanos?
Ah, bah ouais, je pense qu'il arrive.
À mon avis, il descendra pas en Championship avec eux.
Non, je ne crois pas non plus.
Mais surtout.
Il y a encore un qui joue bien au ping-pong?
Non, lui, ping-pong, ouais, tu vois, comme quoi.
Mais c'est un énorme fiasco, ouais,
Tu l'as connu, Tati aussi, bien sûr.
Tout ce qu'il sait faire, demande-lui, ça vient de qui? Je l'ai pas mal entraîné.
Voilà.
Ah oui, évidemment. Bah attends, tu deviens pas un si bon attaquant sans avoir.
Chano, tu viens du Luxembourg, je vais t'écouter.
Bah figure-toi qu'il arrive d'Uruguay, de Torquay, Montevideo, et que quand il arrive à New York et qu'il voit le capitaine devant lui et dire fais-moi la passe, bah il me l'a fait. Normal, c'est comme ça. Voilà, et derrière, et lui il est à West Ham et moi j'ai arrêté. C'est comme ça.
Et toi t'es dans l'after.
C'est mieux. Et je suis pas en Championship.
C'est deux histoires de destin.
C'est ça, hein. Podcast à faire dessus.
Destin croisé.
Ah, tu vois.
Julien, autre chose?
Non, voilà, c'était ça. C'était toute ma séquence émotion. C'était tout ça. Et on développera demain avec les drôles de dames.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci, Jules.
Et évidemment, toute la semaine, on va se reparler avec la finale Ligue des Champions. Semaine exceptionnelle sur RMC dans l'after spécial Ligue des Champions toute la semaine avant la grande finale de samedi prochain à 18h. On vous prépare d'ailleurs une soirée de folie samedi prochain, quel que soit le scénario. Alors, évidemment, tout le foot français préférerait un scénario avec le PSG qui gagne, sauf Julien Laurence. Quoique, je sais pas. Il est peut-être un peu partagé parce que c'est le Laurencico quand même.
Non, pas tout le football français. Ouais, c'est ça, ouais.
Okay. Une bonne partie, on va dire.
L'Île-de-France.
L'Île-de-France. Bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, nous, on sera là, que ça gagne ou que ça perde. Il y aura toujours des gens qui seront contents, en quelque sorte. Allez, dans un instant, l'Italie, avec Daniele Manoussia et la surprise du soir, Milan, qui ne sera pas en Ligue des Champions.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h45, David Guzman, Kevin Diaz et Maxime Chano sont là. L'Italie, désormais. Et oui, parce que ce soir, on a eu une soirée assez dingue en Serie A, dernière journée de Serie A. Et Daniele Manoussi est là. Daniele, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
C'est Daniele.
Bon, ciao. Daniele, ce soir, ça va chauffer sans doute à Milan. Parce que là, c'est le bide de la soirée. Donc Milan, qui a réussi l'exploit de perdre à la maison contre Cagliari, alors que voilà, une victoire leur suffisait hein, pour être en Ligue des Champions.
Et pour les résultats qu'il y a maintenant, même un match nul. Parce que la Juventus, elle est en train de jouer, elle avait une heure de retard, mais si ça se termine comme ça, c'est-à-dire 2-2 pour Turin et Juventus, il y aurait eu égalité entre Milan, Como et Juventus, et dans ces cas-là, les Milan, ils seraient allés en Champions League.
Donc là, c'est...
Et vu qu'ils ont perdu... Ils ont perdu contre une équipe Cagliari qui ils se sont sauvés la semaine dernière.
Ouais, qui joue plus rien.
Ils jouaient rien, mais ils ont joué l'honneur comme beaucoup d'équipes en Italie. Ça, c'est franchement, c'est une bonne nouvelle pour la Serie A. On l'a vu. Mais voilà, le Milan, ils ont eu, on l'a vu venir, hein. On peut pas dire que c'était une surprise. Ça fait 10 points dans les dernières 10 matchs pour Allegri. C'était un Milan désastreux bien avant de ces matchs-là. À la mi-temps, ils sont sortis dans les siffles de San Siro. Ils avaient aucun repère. Leao, leur meilleur joueur, rentré sur les terrains à 20 minutes de la fin. Modric qui jouait avec le masque parce qu'il a la pommette cassée, mais il a dû jouer parce que le Milan sans Modric, c'était encore pire qu'il était ce soir. Donc c'était vraiment, ça donnait vraiment l'image d'une équipe que... Moi, je vais dire une chose, mais heureusement qu'ils n'ont pas un Champions League. Une bonne Europa League, ça peut les faire un peu humilité.
Mais après, financièrement, ça va être compliqué aussi, Daniele, sans la Champions League. Mais c'est quand même le retour d'Allegri et le recrutement d'Iglitaré cet été, c'est quand même catastrophique. La sous-utilisation des joueurs offensifs, que ce soit Pulisic, que ce soit Leao, que ce soit Fulcrux, que ce soit Jiménez, il n'y en a pas un qui a performé. Nkunku.
Non, mais il y a un moment, Daniele. Alors, je sais que Daniel en parlera sûrement cette semaine, mais Allegri,
on est d'accord.
Il va continuer d'avoir des clubs comme ça, énormes, avec d'énormes budgets, etc. Ou il y a un moment, on va se dire que c'est peut-être pas un bon entraîneur, ou en tout cas que ce n'est plus un entraîneur pour le très haut niveau.
Mais les Milan, oui, moi je pense que c'est, il y a un énorme problème d'entraîneur. C'est-à-dire les Milan, ils ont jamais bien joué. Ils ont eu la première partie de la saison où on va dire la qualité de certains joueurs comme Rabiot, qui franchement c'est un des meilleurs joueurs du championnat, dans des milieux de terrain au moins, ça suffisait pour être deuxième et même pour jouer, parce que les Milan, il y a deux mois, ils ont battu l'Inter dans le derby et on disait qu'il allait peut-être jouer la première place. Donc c'est dans les dernières deux mois que ça s'est complètement écroulé. Mais même quand il allait bien, les jeux, il n'y avait pas. Mais là, il y a un problème de propriété parce qu'il y a le Red Bird avec le propriétaire Cardinale, très proche d'Ibrahimovic, qui sont sortis dans les siffles de San Siro. Ils ont un conflit avec Taré, le directeur sportif, et Allegri. Allegri, c'est Taré qui l'a voulu. Donc soit c'est Taré et Allegri qui partent, soit c'est la propriété qui change quelque chose. Il y a beaucoup de supporters qui demandent que c'est soit ça Ibrahimovic qui part, parce que dans la semaine dernière, il y a eu des nouvelles qu'Ibrahimovic, il a envoyé des textos aux joueurs dominants pour dire de pas suivre ce qu'Allegri lui disait. Donc c'est une équipe bien.
Après, prendre un dirigeant qui s'appelle Taré, c'est un peu...
Taré, c'est un Albanais qui va à la Lazio.
Oui, il jouait à la Lazio, il était directeur sportif de la Lazio, il avait sorti des bons joueurs pour la Lazio.
Il était très bon joueur,
Mais là, il y a beaucoup de problèmes, pas seulement dans les terrains, même en dehors de ça, pour les Milan. Mais c'est bien parce que au moins c'est Como qui va en Champions League.
Voilà.
Como, franchement,
parlons-en, parce que Como, c'est quand même l'équipe fraîcheur là de la saison.
Bah oui, il y a deux ans, ils étaient en deuxième division. Il faut le rappeler toujours. C'est pas une belle histoire à raconter aux enfants le soir, parce qu'il y a toujours l'oseille derrière. Il y a des propriétaires très riches, la famille Ortono, c'est des leaders de tabac en Asie. Donc il y a eu beaucoup d'argent, ils ont beaucoup dépensé cet été, ils ont dépensé plus de 100 millions, mais ils ont quand même, si on regarde les salaires, ils ont quand même 40 millions de salaires. Le Milan, l'Inter, c'est 139, c'est trois fois plus. Donc ils ont dépensé, mais quand même en regardant un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont pris des joueurs intéressants, ils ont bâti une belle équipe, ils ont cru dans un entraîneur jeune, que ça aussi je le répéterai toujours, les journaux italiens, les réseaux sociaux italiens, ils se sont moqués des Fabregas jusqu'à la dernière minute. Là, il se moque pas.
Je suis d'accord avec toi. Et je trouve en fait que Fabregas, il a été, de par son attitude un peu, un peu novatrice, son côté moderne, en fait, il a été raillé, il a été moqué. Je me souviens que je crois que c'est contre l'Inter, en fait, où il fait une super rencontre et il perd, je crois, 3 ou 4-0 dans le contenu. Et lui, en fait, il a l'audace de dire, mais même, c'est pertinent de dire en conférence de presse, oui, mais regardez, je pense que j'avais bien analysé la rencontre, on aurait mérité mieux. Et là, il s'est fait tomber dessus par tous les analystes, en fait, les vieux classiques de la télé italienne, alors qu'au final c'est lui qui a raison. Et quand j'entends en fait les noms avec qui la Squadra Azzurra veut rebâtir, veut se renouveler, moi je suis un peu effaré en fait que Fabregas, qui parle et qui réussit, il soit traité avec autant de condescendance en Italie.
Oui, mais on sait que Fabregas, il est destiné à d'autres, championnats, Premier League ou quoi que ce soit. La chose que t'as dit, c'était après que l'Inter a battu Como 3-2 en Coupe d'Italie.
3-2 en Coupe d'Italie, excuse-moi.
Ouais, parce que Como gagnait 2-0.
C'est
donc
ça,
en Italie, ils n'ont pas pardonné le fait que sur le 2-2, les Como, ils n'ont pas fait la défense du Moyen-Âge comme Allegri. Mais oui, c'est un entraîneur qui a beaucoup à enseigner. C'est un bon message pour l'Italie. Et je vais vous dire une chose. Milan et Juventus en Europa League, ça veut dire aussi que c'est fini les temps où les grandes équipes en Italie peuvent ne pas jouer, qu'ils ont la place en Champions League de droit. Là, il faut jouer. Il faut faire des choses. Il faut investir. Il faut avoir des idées. Parce que Roma et Como, au moins, ils ont eu des idées. Ils ont changé et ça a payé finalement.
Et à Como, avec un Français qui a performé, hein, le gardien de but, Jean Butez, l'ancien Lillois.
T'as Luca Dacuña aussi.
Je parle de lui parce que c'est vrai qu'on parlait du poste du troisième gardien, bon, finalement, qui a été donné à Robin Risser. Mais je pense que Jean Butez, il aurait pu potentiellement être dans la liste pour cette Coupe du Monde. Hein.
On en a parlé, il s'est beaucoup amélioré, mais c'est un gardien très fort avec les pieds, un peu moins fort dans les buts. Ce soir, il y a eu un autre grand match de Maignan. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la France. Parce que même si Milan a perdu, il aurait pu perdre pire d'apprendre le troisième but si c'était pas pour Maignan. Mais bon, il faut dire deux mots aussi sur la Roma. Parce qu'on n'attendait pas la première année en Champions League avec Gasperini. Tu te souviens, Gilbert, au début de la saison, tu m'avais dit, mais tu vois pas la Roma pouvoir, moi, je t'ai dit, non, la Roma, c'est un chantier, si la Roma, elle va jouer l'Europa League. Ben, ça a surpris tout le monde. Il y a eu un ovni arrivé dans la série. C'est l'ovni de Malen, oui, bien sûr. Il y a Dybala, ce soir, il est rentré, il a joué un match énorme, mais avec beaucoup de souffrance, la Roma, parce que 11 contre 10 contre Verona, relégué depuis deux mois et peut-être, on peut dire, relégué depuis le début de la saison parce qu'ils avaient une équipe pas compétitive. Ils ont souffert parce que Verona, ils ont attaqué, ils voulaient mettre le but qui allait compliquer la vie à la Roma. Mais finalement, ça aussi, c'est une belle histoire. La Roma, ils ont cru en Gasperini, quitte à virer Ranieri, qui c'était l'entraîneur qui les a sauvés l'année dernière, une institution à Roma, aimée par tous les supporters. Mais ils ont dit, non, on va quitter Ranieri parce qu'on croit dans les projets de Gasperini. Donc la Champions League, c'est un cadeau parce qu'ils ont cru et parce que c'est une narration aussi positive. Donc c'est fini avec les narrations, le football est simple, ça suffit de faire un bout de plus des autres, nous on va aller en Champions League parce qu'on est les Milan. Non, il faut souhaiter, il faut jouer, il faut avoir des idées. C'est ça la...
Pas mal. Moi, les Fredkin cette année, ce match. David.
Ouais, les Fredkin c'est bien. Les Fredkin, ils sont bien rentrés dans le nouveau stade à Everton qui fait une saison convenable. Ils montent avec Cannes en Ligue 3 et à Champions League avec la Roma, ils commencent à trouver leur rythme de croisière. Et c'est vrai que le choix Gasperini, qui n'était pas forcément évident, il a été salutaire. Après, c'est quand même un grand chantier. Je crois qu'ils vont pas mal se renouveler. Il y a Pellegrini qui va certainement partir. Mancini peut-être aussi. El Shaarawy peut-être aussi. Il y a beaucoup de postes aussi à renouveler à la Roma, Daniel Espume.
El Shaarawy, il a déjà salué les supporters qu'il aime beaucoup. C'était son dernier match pour la Roma. On ne sait pas si Dybala, il va renouveler. Il va forcément devoir changer beaucoup de choses, Gasperini. Bien sûr, l'équipe, elle n'est pas du tout au niveau de la Champions League. Donc il va falloir faire des choses, mais avec 80 millions c'est plus facile que sans les 80 millions. On va peut-être garder Manu Koné, qui c'est le meilleur milieu du championnat, et on pensait qu'à la fin de cette saison, si la Roma elle allait pas en Champions League, lui il allait partir. Il va peut-être partir de toute façon parce que c'est vraiment un profil de haut niveau. Mais la Roma, elle a de quoi, de quoi bâtir. Como aussi, il doit bâtir. Hein. Il doit bâtir un stade, ou une partie de stade. Parce que pour le moment, ils ne peuvent pas jouer à Como. Ils doivent jouer à Reggio Emilia. Peut-être ils vont changer d'autres choses. Il va falloir trouver un compromis avec la UEFA parce qu'ils n'ont pas de joueurs italiens, ils n'ont pas de joueurs formés. Ils ont dépassé les limites de financial fair play. Donc, ouais. Como aussi, c'est un peu un résultat inattendu. Ils n'étaient pas préparés pour ça. Roma, la même chose. Il va falloir... investir encore, continuer à investir.
Bah, Como, c'est un peu comme si le Paris FC s'était qualifié en Ligue des Champions, l'année prochaine. Ils n'ont pas eu le temps de faire croître les revenus.
Et un mot de la Juve quand même pour finir, parce que les minerais, l'Europa League l'année prochaine, tu auras Milan, la Juve, Marseille. Voilà, enfin non, mais il y a un plateau quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Les clubs anglais, c'est un peu moins, parce que bon, Bournemouth et Sunderland, c'est pas.
Rennes. Avec Pino qui nous a dit qu'il voulait gagner la Coupe d'Europe.
C'est vrai.
Et David qui croit dur.
Et David qui croit dur.
Leverkusen aussi.
Qui gagne une Coupe d'Europe. Et je continue à souligner en fait.
Et
je suis persuadé qu'avec les moyens financiers déployés par la famille Pino, c'est 3 ou c'est 4, c'est possible dans un futur.
Daniele, tu voulais dire un truc sur la Juve là ?
Il y a eu beaucoup de malchance. Après, je pense que se sont compliqués la vie. Ils ont perdu à domicile contre la Fiorentina la semaine dernière. Donc. Et ils ont joué très mal, donc rien à dire. C'est une équipe mal bâtie. Ils payent plusieurs saisons avec des problèmes de mercato et des problèmes de diligence. Là, on parle de peut-être Komoyi va partir. Donc encore une fois, peut-être ça va changer la tête de la société. Mais même si ça change pas, il va falloir changer quelque chose sur les mercato. Il y a beaucoup de trous. Mais Spalletti avait quand même mis un jeu solide, positif. C'était beaucoup amélioré. Il y a eu un peu de malchance. Mais bon, après, quand on arrive à jouer effectivement la Champions League, à l'avant-dernière match, avec un bout par-ci, un bout par-là, ça peut arriver que t'es malchanceux, quelqu'un d'autre soit chanceux. Mais après, il y a des trous indiscutables, parce que la Juventus aussi, elle a des qualités. Ils disent que c'est un des meilleurs du championnat. Est-ce qu'ils vont arriver à garder, ils disent, avec l'Europa League à jouer, pas la Champions League? On ne sait pas. Spalletti devrait rester, mais est-ce que Kefren Thuram aussi, il va rester?
Il y a des décisions financières un peu surprenantes. Enfin, je ne sais pas qui a négocié le prêt converti d'Openda, mais c'est vrai que c'est très surprenant.
Daniele, demain soir, demain soir, les drôles de l'âne, tu auras l'occasion de redétailler tout ça, bien sûr, avec 24 heures de recul. Merci Daniele, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée, à bientôt.
Salut, deux, trois petites infos pour finir, vous dire que le maire de Lens, Sylvain Robert, a annoncé aujourd'hui que le 22 mai serait désormais férié à Lens.
Mais ça veut dire quoi?
Moi, j'ai vu, pareil, je me suis dit, j'ai tiens,
bah, peut-être que personne au travail.
Les employés municipaux, de la ville, sans doute, de férié, quoi, voilà.
Ouais, okay. Ouais, donc, dans la France entière, on enlève les jours fériés, mais à Lens, on rajoute des jours fériés.
Alors, exactement. Le 22, c'est parce que jour de victoire de Coupe de France, donc désormais, tous les 22 mai, on célébrera la première Coupe de France de Lens. Okay.
Voilà, donc le 21 au soir, ça va bouger à Lens.
Ça va bouger à Lens, donc prenez rendez-vous, exactement. Demain, drôle de dame à 20h, after, avec Pierre Sage, donc à 22h. Merci les gars, bonne nuit à tous et à demain soir.
RMC, l'after foot.